Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 408 et on aborde un sujet qui est important pour le formateur, qui est souvent peu exploité, pas assez en tout cas, dans les référentiels de compétences. Eh bien, c'est la voix du formateur. Et pour parler de ça, ben, on fait revenir quelqu'un qui a fait une très belle émission sur les bibliothèques. Je vous invite tous à aller regarder si vous ne l'avez pas entendu quand c'est sorti. Françoise Écart, et qui est coach vocal. Et donc, elle vient nous parler en quoi c'est important, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les exercices, etc., de façon à ce que tout le monde soit sensibilisé sur le sujet, que ce soit les responsables de formation, mais que ce soit aussi les formateurs, qui sont acteurs de leur propre développement de compétences. Bonjour Françoise.
Bonjour Stéphane.
Alors, Françoise Écart, on démarre directement. En quoi est-ce que la voix est importante pour le formateur?
En fait, toutes les personnes qui ont à s'exprimer devant un public et surtout qui ont à convaincre, doivent se préoccuper de leur voix, parce qu'en fait, la voix, c'est une des choses qui va faire que les autres ont envie de nous écouter ou pas. Hein? Donc ça va concerner les formateurs, les enseignants, les gens du domaine politique, les comédiens. Et en fait, les comédiens travaillent leur voix en général, mais les autres professions, pas forcément. Quelquefois, les hommes politiques, ça arrive qu'ils aient des
Oui,
conseils là-dessus.
exactement. Il y en a
Mais
qui ont des fois la
effectivement,
voix qui se calme
les enseignants
mal.
et les formateurs, ça commence à être un sujet, hein, parce que pour les enseignants en tout cas, il y a un peu d'accompagnement là-dessus maintenant, depuis quelques années, mais c'était un sujet qui était quand même effectivement très sous-estimé, comme tu disais, hein, pas du tout pris en compte, alors qu'en fait, chez certains enseignants, chez certains formateurs, c'est un vrai problème. Ils se
Exactement,
font
oui.
mal, en fait. Quelquefois,
Oui.
ils sont à faune, ça arrive,
Oui.
et ils ne
Exactement.
savent pas trop quoi faire. Ouais.
Complètement. Et surtout, comme ils n'ont pas été sensibilisés, ils n'ont pas les bons réflexes.
C'est ça, c'est ça.
Donc, on voit souvent des gens qui poussent leur voix, qui confondent puissance et puis le fait de pousser leur voix, alors qu'en fait, il y a d'autres techniques. Alors, comment est-ce qu'on travaille sa voix?
Alors, il y a différentes façons de faire, hein. En fait, le coaching vocal, c'est pas très connu, hein. Il y a des professeurs de chant. C'est pas une appellation contrôlée, en fait, hein, de toute façon. Donc, il y a des professeurs de chant qui s'appellent coach vocal, alors qu'en fait, ils le sont
Bon.
pas. Ils s'occupent que du chant et ils s'occupent pas forcément du corps dans son ensemble. Après, il y a les orthophonistes qui, évidemment, font travailler l'articulation, les gens qui bégayent, ce genre de choses, mais ça
D'accord.
reste quand même relativement circonscrit et il y a des aspects qui ne sont pas forcément pris en compte. Après, ça dépend toujours aussi des orthophonistes quand même. Et donc, effectivement, cet accompagnement-là, il n'est pas très connu, donc les gens ne savent pas forcément à qui s'adresser. Une des premières choses, et c'est une chose qui pose problème à la majorité des gens aujourd'hui, c'est de savoir respirer correctement. En fait, c'est vraiment le nerf de la guerre du formateur et de tous les gens qui s'expriment face à un public, c'est de savoir respirer. En fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'avec une mauvaise respiration, on ne peut pas réguler ses émotions, on ne peut pas
D'accord.
réguler le rythme de son expression, et on ne peut donc pas gérer son stress. Voilà, et face à un public, quelquefois les groupes sont pas simples, hein, quelquefois il y a des réactions
Bien
un
sûr.
peu difficiles, quelquefois on maîtrise plus ou moins ce qu'on a à dire et on est un peu anxieux. Et donc si on respire pas correctement, on n'a aucun moyen de réguler ça.
D'accord. Et
Alors,
donc, comment est-ce qu'on fait pour respirer bien?
en fait, ce qui est assez curieux, c'est que la respiration naturelle qu'on voit chez les bébés, c'est la respiration ventrale, hein. En fait, c'est celle que le corps cherche à mettre en place, mais on a désappris ça à force d'être assis tout le temps, de travailler sur écran, on bouge pas assez, et donc on se met à respirer en thoracique, comme on dit techniquement, c'est-à-dire avec le haut du corps, en fait. Et ça, c'est une respiration à la fois trop courte, un peu rapide, et on mobilise pas le diaphragme. Et donc la mobilisation du diaphragme, en fait, c'est bon pour la santé parce que c'est la respiration que le corps recherche, en fait.
D'accord.
Sauf qu'à force d'empêcher le corps de respirer comme ça, il a pris des automatismes. Heureusement pour nous, on n'a pas besoin de penser à respirer,
Oui, c'est
heureusement.
mieux.
Voilà.
Parce que
Mais
des fois, on peut oublier, donc très bien.
voilà, alors des fois, ça arrive que, par exemple, justement, des formateurs soient en apnée. Moi, je dis,
Oui,
j'ai
ah oui,
animé
absolument.
des formations de formateurs à une époque, et je disais souvent aux gens, vous savez, quand vous avez un trou noir, ben, il suffit de vous remettre à respirer parce qu'en général, c'est juste parce que vous avez cessé de respirer. Et vous êtes en apnée parce que, bon, voilà, il y a une anxiété qui passe ou voilà. Et du coup, le cerveau cesse de fonctionner. Et c'est simplement parce que voilà, la respiration n'est pas là. La respiration, c'est vraiment l'essentiel. Donc, il faut réapprendre au cerveau à fonctionner en respiration ventrale automatiquement. Et
D'accord.
ça nécessite quand même un peu de travail. Il faut y mettre de la conscience. Et pendant quelques mois, moi je dis souvent aux gens, l'avantage, c'est qu'on respire tout le temps. Donc on peut s'entraîner à respirer par le ventre n'importe quand. Hein. Dès qu'on fait la queue au supermarché, qu'on est dans un embouteillage, qu'on écoute quelqu'un qui nous gonfle un peu et qu'on n'a rien à dire, on peut respirer par le ventre. C'est pas compliqué. Ça plusieurs fois par jour, quelques minutes. Mais il faut mettre de la conscience dessus. Et plus on va faire ça régulièrement pendant quelques mois en mettant de la conscience dessus, plus on va changer les habitudes du cerveau et peu à peu, il va revenir en respiration ventrale parce que ça lui fait du bien. Parce qu'en fait, en respiration ventrale, en mobilisant le diaphragme, on se fait du bien aux organes, on masse les organes, on digère mieux, ça fait du bien au dos. Les gens qui respirent que par le haut, en fait, ils ont souvent des problèmes de dos, des problèmes de ventre. Et puis, ce que disent les orientaux, c'est que le centre de gravité des occidentaux est trop haut. À cause de cette respiration trop haute, on fait monter le centre de gravité au niveau du plexus, alors que normalement, il est au niveau du nombril. Du coup, on n'est pas ancré. Et donc, on flotte, en fait, on est dans sa tête un peu tout le temps et on n'est pas ancré. Et pour un formateur, bah, c'est embêtant aussi de ne pas être ancré parce qu'en fait, on manque de présence vis-à-vis du groupe. On parle trop vite, et on est dans le mental beaucoup et puis on gère pas ses émotions. Et donc, tout ça fait que les groupes ont quelquefois du mal à rester attentifs. Parce que la
D'accord. Et
personne
donc
n'est pas
ça,
ancrée.
et donc il décroche. Et donc est-ce que c'est une façon aussi, la respiration, c'est un peu la vie, hein, c'est ce qui est le cœur de l'animation. Est-ce que finalement c'est pas une façon de se détendre dans sa façon d'animer, d'avoir plus d'assurance? Est-ce que c'est pas un peu aussi une façon d'être plus zen pour plus puissant et plus zen pour le formateur?
Ah ben clairement, parce qu'en quand on mobilise le diaphragme, on a des respirations plus allongées, plus profondes, nécessairement. Ça prend plus de temps. Donc on pose plus son rythme et en même temps, effectivement, on se calme soi-même. Alors c'est aussi d'ailleurs un moyen que si on vient de traverser un moment un peu compliqué, qu'il y a eu une question, on n'a pas su répondre ou inquiet pour un truc, bon, voilà, pendant quelques secondes, puis ça se voit pas. Je veux dire, on peut très bien faire ça, encore une fois, n'importe quand. Je veux dire, ah, là, j'ai besoin de souffler un peu. Je me mets en respiration ventrale profonde et on s'aperçoit que ça calme tout de suite, en fait. Ça calme à la fois l'émotion qui peut être là, ça calme aussi le rythme des pensées, ça permet de retrouver son fil, enfin, ça a tout un tas d'avantages. Et de le faire aussi avant d'entrer dans la salle de formation, de faire pendant quelques minutes vraiment un temps de respiration profonde, ben on s'aperçoit que là on se pose, voilà, tout ce qui est émotionnel se calme. L'avantage aussi, c'est que comme on va avoir un rythme plus lent, ben la voix va aussi être plus posée et plus agréable à écouter. Parce que c'est jamais oublié que les gens à qui on parle en formation, ils peuvent découvrir le sujet ou alors ils l'approfondissent, ça dépend de leur niveau d'expertise. Ils ont besoin aussi de réfléchir. On leur parle, ils reçoivent l'information. Il faut qu'ils aient le temps de l'intégrer, il faut qu'ils aient le temps de réagir, éventuellement poser une question. Et c'est plus lent qu'une conversation courante sur le trottoir avec quelqu'un avec qui on échange des nouvelles, quoi. Hein.
Et puis ça permet en étant plus lent, à certains moments, d'être plus rapide. C'est-à-dire
D'être
qu'on peut
plus efficace.
accélérer son rythme, puisque finalement, à certains moments, on peut casser son rythme d'animation. Donc on a
Oui.
une vraie belle amplitude. Non? Ou je dis une bêtise?
C'est-à-dire que bon, moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser que la rapidité peut plus poser problème qu'autre chose, surtout en matière d'apprentissage. Après, c'est toujours une question, enfin, je dirais que c'est plutôt pouvoir s'adapter aux interlocuteurs. Donc, tu peux avoir des groupes qui ont besoin d'aller plus vite, qui effectivement maîtrisent déjà certains sujets ou qui sont très réactifs sur les questions, etc. Et en fait, il va falloir à la fois s'adapter aux gens et en même temps réguler parce que quelquefois, ben, ils veulent aller plus vite et puis en fait, il ne faut pas aller plus vite. Voilà, donc En fait, la respiration, c'est quelque chose avec lequel on va se mettre aussi en synergie avec les gens. Quand on est en train de parler à des gens, en fait, il y a une espèce de comment dire, on travaille un peu en miroir. En fait, les
Un
gens vont s'adapter
mimétisme.
inconsciemment au rythme qu'on leur propose. Donc, quand on parle vite, qu'on respire vite, en fait, on crée un rythme vite, rapide, qui est stressant pour le groupe. Et on va aussi faire monter, et on se retrouve avec des groupes agités. Que ce soit des adultes ou des enfants, c'est pas la
Bien
question.
sûr.
En fait, c'est parce qu'on crée un rythme rapide. En fait, on a des groupes qui, du coup, sont effectivement rapides, éventuellement agités. Ça va partir un peu dans tous les sens. Que si on arrive à parler tranquillement, à poser sa voix, à faire des pauses, mais on va avoir un groupe qui va trouver son propre rythme aussi. Et les gens vont pouvoir aussi s'écouter eux-mêmes. Hein, et donc, être en accord avec ce qui leur, avec leurs propres besoins. On a aussi besoin de que les gens puissent exprimer leurs besoins. Pour ça, il faut qu'ils aient aussi le temps d'en prendre conscience, quoi. Donc le temps, le rythme, c'est vraiment quelque chose de très important en formation.
Autrement dit, suivant la pédagogie qui est choisie, on change sa voix. Si par exemple on veut une pédagogie où les gens puissent intervenir, prennent la parole, etc., on peut caler la voix de façon à être plus dans l'écoute, alors que quand finalement on veut créer un jeu, du gaming, finalement c'est mieux d'exciter tout le monde avec sa voix, peut-être d'accélérer. Et donc suivant l'exercice pédagogique, finalement on peut caler la voix, qui est appropriée.
Alors, disons que la question là qui va être soulevée, c'est la capacité justement du formateur à jouer avec sa voix. Ce qui n'est pas forcément justement quand on parlait des compétences dans ce domaine-là, en fait, il n'y a pas d'apprentissage là-dessus. Hein. Les enfants le font naturellement. Les enfants jouent avec leur voix. Voilà, ils chantent naturellement en général, ils font des bruits bizarres que souvent on n'arrive pas toujours à refaire quand on est plus âgé. Ils le font tous, voilà, ils s'amusent. Bon. Quand on est en formation, on devrait être capable aussi de s'amuser et donc de faire bouger sa voix, effectivement, en fonction de l'intention qu'on a. Hein. Si on veut que les gens se mettent dans une phase plus de réflexion, on va effectivement ralentir son rythme, peut-être baisser un peu le niveau sonore. Quelquefois, moi, je travaille sur le comportemental beaucoup, ben, j'aide les gens un peu à déstresser, à se détendre. Donc, effectivement, là, on va ralentir la voix. À d'autres moments, ben, si on leur propose effectivement un jeu, par exemple, je sais pas, une joute verbale sur un sujet, bon, ben, là, oui, on va peut-être prendre une voix d'animateur télé, voilà, si on est capable de le faire. Mais donc, voilà, l'idée, c'est de jouer non seulement sur les rythmes, mais on va aussi être capable de jouer sur les tonalités, donc effectivement plus grave, plus aigu. En fonction de ce qu'on est en train d'exprimer, on peut aussi jouer, voilà, sur l'intensité sonore, hein, plus bas, plus
Oui,
haut.
bien sûr.
Il y a des tas de variations possibles. En fait, la voix, c'est un instrument incroyable, hein. On a un outil qui est de moins en moins utilisé. Moi, je vois, en fait, on doit être discret, on doit se taire, on ne doit pas avoir des expressions trop fortes, des émotions trop évidentes, etc. Et peu à peu, on perd cette capacité vibratoire qu'on a eue à la naissance avec un outil qui est incroyable, avec lequel on peut faire plein de choses. Et on perd aussi en expression vis-à-vis des autres, parce qu'effectivement, on finit par avoir des voix monocordes, les gens s'endorment à vous écouter. On parle trop vite, donc c'est trop difficile de comprendre. Donc les gens aussi fatiguent, on n'articule plus. Voilà, bon, on l'a vu beaucoup pendant la période Covid. C'était assez flagrant. Les gens portaient des masques et ils se rendaient pas compte que s'ils articulaient pas et qu'ils parlaient pas un petit peu plus fort, en fait, on pouvait pas comprendre ce qu'ils disaient.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un formateur qui n'a pas une bonne voix? Qui a une voix monocorde, voire même des voix très aiguës. On dit que souvent les gens qui sont très pointus, finalement, ça agresse, les autres. Est-ce qu'il faut
Alors,
qu'ils
la voix
démissionnent?
aiguë, les fréquences de la voix aiguë sont effectivement plus percutent plus le tympan et sont souvent plus difficiles à sont moins agréables. Pour ça d'ailleurs qu'on dit que les femmes politiques ont un handicap dès le départ quand elles ont une voix aiguë par rapport aux voix graves des hommes, parce qu'effectivement c'est spontanément une voix qui peut être moins agréable à entendre. Donc il faut apprendre à mettre du grave dans sa voix. Hein.
D'accord.
Donc ça s'apprend. La première chose, c'est de prendre conscience de la voix qu'on a. Or, en général, on ne la connaît pas parce qu'on, ce qu'on a, c'est ce qu'on enregistre, ce n'est pas la même voix. Ce qu'on entend, nous, on entend une voix qui est un mix de ce qu'on entend à l'intérieur et de ce qu'on entend à l'extérieur. Donc, ce n'est pas la voix que les autres entendent, en fait. Donc, il y a un geste hein, pour ça. Hein. On peut très bien trouver quelle est la voix que les autres entendent. Bon, déjà, se rendre compte, voilà, quel est son véritable timbre. Et puis après, il faut aussi demander aux autres quel effet elle fait, parce qu'on peut avoir une mauvaise opinion de sa voix à tort. Hein. Bon,
Bien sûr.
voilà. Après, voilà, effectivement, il y a des réflexes.
Et ça se travaille.
Ah oui?
On peut travailler une voix si on a une mauvaise voix. On peut prendre une voix plus grave, plus chaude s'il faut. Enfin, c'est des choses qu'on peut
C'est sûr, ça
travailler.
se travaille. Les comédiens font ça tout le temps. On voit bien que y a eu, à une époque, j'étais amie avec des jumeaux. Il y en avait un qui était musicien et l'autre qui était comédien. Et ils
D'accord.
avaient le même timbre de voix parce qu'ils étaient jumeaux. Le comédien, il travaillait sa voix. Et c'était incroyable la différence, en fait, dans la façon de parler. Hein. Lui, il avait une voix chaude, posée. Il faisait des lectures à voix haute beaucoup dans son métier. Et l'autre parlait très, très vite. Et bon, c'était quelqu'un de très, très. Mais ils avaient le même timbre de voix, mais ils ne l'utilisaient pas du tout de la même façon. Donc bien sûr ça s'apprend. Donc il y a de la conscience à mettre dessus. Après moi ce que je dis souvent aux gens, votre voix c'est vous. En fait la voix ça n'est qu'une conséquence. C'est la conséquence de un état émotionnel, d'un état physique et d'une habitude d'une façon d'être, donc d'une personnalité. Quelqu'un qui écoute les voix, même sans voir personne, peut avoir une idée du type de personnalité, de l'état de santé et de l'état émotionnel de quelqu'un, juste en écoutant sa voix. Parce que la voix, c'est une manifestation qui vient de comment on mobilise ses muscles, son corps, de voilà quelle émotion on a à ce moment-là. Ça va se traduire dans la voix. Ça aussi que les formateurs et les gens qui s'expriment en public doivent prendre conscience que toutes leurs pensées, toutes leurs jugements vont influer sur ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, s'ils ne sont pas cohérents, s'ils essayent de dire des choses qu'ils ne pensent pas ou auxquelles ils ne croient pas, les gens vont d'abord, au travers de leur corps et de leur voix, entendre ce qu'ils pensent vraiment, en fait. Hein.
Bien sûr,
C'est comme ça
absolument.
qu'on est tous assez doués pour repérer les menteurs. Parce que c'est
Inconsciemment,
important et ça
absolument.
se voit, en fait. Alors, la voix
Et...
monocorde, elle donne par exemple l'impression que la personne s'emmerde. Et donc, on ne va pas avoir écouté.
Bien sûr. Hein. Et donc ça, on peut réenchanter sa voix en réenchantant d'abord peut-être son mental, mais après, ça peut être un exercice aussi en se disant, bah, moi j'ai envie d'amener les gens à croire en ce que je crois, ce qui est souvent le travail d'un formateur. Et donc ça, c'est des choses, en combien de temps est-ce qu'on peut améliorer sa voix quand on a une mauvaise voix?
Alors, moi, je vois les gens en séance individuelle, je les vois 5 fois. 5 fois une heure. Et je dirais que dans 95% des cas, le déclic se fait en 5 séances. Alors,
D'accord.
c'est des séances assez intenses, hein, où on travaille vraiment sur le corporel, les émotions. Voilà, et donc, le déclic peut se faire en 5 séances. Après, une fois qu'on a trouver le fil sur lequel il faut tirer, ben voilà, il peut y avoir à approfondir ça. Hein. Si par exemple la personne manque de confiance en elle, c'est pas forcément d'ailleurs moi qui vais lui, je peux le faire, mais je peux suggérer à la personne d'aller faire des ateliers d'improvisation théâtrale, par exemple, pour développer sa confiance en elle. Ça peut, si la personne a effectivement, j'ai eu une fois un monsieur qui a une voix trop aiguë, ça lui plaisait pas. Sa voix, n'était pas passée dans les graves au moment de l'adolescence, enfin pas suffisamment. Donc on a travaillé ça. Le problème, c'est que en changeant, en mettant du grave dans sa voix, il changeait sa relation aux autres. Il changeait sa façon d'être. Il était obligé, pour pouvoir mettre du grave dans sa voix, il était obligé de ralentir son rythme, de s'ancrer plus, de faire descendre son centre de gravité. Enfin, il avait appris à faire ça. Et pour les autres, son entourage habituel, ben c'était un peu surprenant. Et donc après, il faut l'assumer. Et quelquefois, c'est ça qui empêche le changement. C'est que ben, ça peut changer beaucoup de choses dans la relation aux autres de faire évoluer sa voix. Donc mettre plus de graves ou au contraire, bon, dans l'inconscient collectif, les aigus se réfèrent au féminin et au fragile, et les graves au masculin et au solide. Hein, bon. Et donc, il y a des femmes qui ont du mal à aller dans leurs graves, il y a des hommes qui ont du mal à aller dans leurs aigus. Parce que inconsciemment, il y a cette idée, si je vais dans les aigus, c'est la fragilité. On peut aussi avoir des femmes qui ont du mal à aller dans les aigus, d'ailleurs. L'idéal, c'est de d'étirer, de muscler sa voix pour pouvoir jouer comme on veut avec les graves, les aigus, enfin faire ce qu'on veut avec sa voix. On peut faire plein de choses. Hein. Et ça veut dire s'assumer. Ça veut dire être
Exactement. Ouais.
avec toi-même.
Et ça
Donc,
permet de
et
gagner
développement
une.
personnel aussi. Hein.
Exactement. Donc ça, c'est très très bien, parce que ce n'est pas qu'un outil qui est extérieur. On parle souvent de poser sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, il y a cette question de la respiration qu'on a déjà évoquée. En fait, c'est arriver à exprimer, à utiliser son système vibratoire, sa voix, sans fatigue, de façon, comment on pourrait dire? Voilà, on ne force pas sur les. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la voix vient des cordes vocales qui sont dans la gorge. En fait, la voix, elle n'est pas fabriquée là, les cordes vocales, elles produisent une vibration, mais en fait, il faut aller chercher la voix dans son ventre. Et donc, ben, poser sa voix, c'est notamment ce geste-là, c'est d'aller être capable d'aller chercher sa puissance, sa respiration, et aussi sa vibration dans son ventre, plutôt que d'aller tirer dans sa gorge. Alors, ça suppose de. Bon, l'instrument de la personne qui utilise sa voix, c'est son corps. Hein. Il y a Ils ont le celliste, leur violoncelle, les pianistes, leur piano, les gens qui parlent et qui chantent, c'est leur corps. Et en fait, c'est tout le corps. Si on veut vraiment avoir une expression posée, agréable, ben, il faut avoir les pieds posés au sol. Par exemple, un formateur doit faire attention à ses chaussures pour être confortable, parce qu'il va être beaucoup debout. Et donc, ben, il ne faut pas être sur des talons trop hauts pour pouvoir utiliser l'appui du sol. Et donc, ça, c'est vraiment un des premiers appuis de la voix, c'est le sol, les pieds. Donc, il faut entretenir ses pieds aussi, faire attention à avoir des pieds en bonne santé. Voilà. Ensuite, bah, il y a la question du diaphragme qui fait effectivement tonifier, travailler pour respirer par le ventre. C'est le deuxième appui de la voix. Hein. Et puis, il y a aussi le périnée. Bon, après, c'est plus technique, le périnée. Mais effectivement, on doit pouvoir utiliser ces appuis-là. Donc, il faut en prendre conscience. En fait, on a beaucoup de puissance potentielle. Moi, j'anime les ateliers yoga du son, hein, qui sont un
D'accord.
travail sur la voix, voilà, un peu comme le yoga, mais avec la voix. Et en fait, les gens découvrent en chantant simplement des voyelles, en chantant un A, qu'ils ont une puissance incroyable. On peut vraiment avoir l'impression qu'on peut venir maître du monde en chantant un A dans une chapelle, a une puissance incroyable à partir du moment où on accepte de s'appuyer sur son corps et de lâcher prise, voilà, de laisser le son sortir. Ce système vibratoire, c'est aussi un système d'auto-guérison. Hein. En fait, on peut, en chantant des voyelles, en produisant des sons, en fait, on peut se faire du bien tout seul, voilà, se faire vibrer et du coup faire circuler l'énergie. La
Effectivement.
voix, c'est vraiment, moi j'ai fait une formation, enfin j'ai fait pas mal de choses, mais notamment une formation alors, ça s'appelait art thérapie de la voix à l'époque, mais bon, c'est voilà, sur 18 mois avec une trentaine de jours et tout un tas d'intervenants de très bonne qualité, y compris dans le domaine de la psychologie de la voix, de l'anatomie de la voix, etc. C'est tout un monde. Voilà, il y a des gens qui travaillent dans des tas de registres à partir de la voix. Il y a même des gens qui travaillent en thérapie sonore sur la vibration, sur les effets que la voix peut avoir, effectivement, pour aider à la guérison après un concert, par exemple, pour les gens qui sont en rémission. Voilà, donc c'est un outil qu'on a à l'intérieur de soi et qu'en fait on méconnaît. On méconnaît largement, quoi.
Et c'est vrai que c'est un outil de découverte de soi, et j'aime bien parce que quand tu parles du chant, qui aujourd'hui est revenu à la mode avec The Voice et des choses comme ça, j'avais entendu Chabal parler, chanter. Et donc, c'est un garçon un peu costaud. Et en fait, il chantait comme un enfant. Et donc, il avait pas, alors il avait une puissance physique, mais il la mettait pas au service de sa voix. Et donc, c'était très, très décalé par rapport à sa façon de faire. Donc, je trouvais ça très, voilà, quelqu'un qui aurait pu retrouver un équilibre différent entre sa voix et des choses comme ça.
C'est vraiment quand on est pleinement dans sa voix, c'est vraiment un bien-être. Parce que tu peux être pleinement dans ta voix que quand tu t'acceptes voilà, que tu es toi-même, en fait. Hein.
C'est
Et
pour ça que
donc,
la religion utilise le chant pour
ouais.
se rapprocher de Dieu. Tout
C'est
le cluni,
sûr
etc.
que, voilà, je parlais du yoga du son. Quand on fait du yoga du son, tu ne peux pas ignorer qu'il y a autre chose de plus grand. En fait, tu te sens relié à plus grand du fait de chanter. Le chant, bon, malheureusement, dans nos sociétés, en France notamment, on perd l'habitude de chanter ensemble, de chanter au mariage, de chanter aux veillées, de chanter. Moi, quand j'étais jeune, on chantait en camping autour d'un feu, hein, avec une guitare. Voilà. On ne fait plus toutes ces choses-là. Et en fait, le chant, c'est aussi un instrument de cohésion, de lien avec les autres. Alors bon, c'est en même temps, c'est extrêmement intime, hein, parce que quand on chante face aux autres, en fait, on est vraiment à nu, on se montre tel qu'on est. Hein. Alors à condition d'être pleinement dans sa voix. Effectivement, moi j'entends des fois dans The Voice ou ailleurs des chanteurs qui fabriquent une voix, c'est pas vraiment la leur, ça s'entend. Elle est effectivement pas dans leur timbre, ils parlent dans un certain timbre, ils chantent dans un autre timbre. Alors ça peut être marrant de temps en temps sur certaines chansons, hein, mais de chanter tout le temps comme ça, ben, c'est-à-dire que la personne, elle n'est pas elle-même, elle fabrique quelque chose. Et du coup, ben, au niveau de la sincérité, de la communication qui peut se faire via le chant, ben, ça ne marche pas de la même façon non plus. On peut aussi trouver des gens qui ont beaucoup de puissance. Qu'ont entre guillemets une belle voix, entre, voilà, parce qu'ils ont une voix forte, hein, quand on admire Céline Dion ou des gens comme ça, on dit
Ah oui.
voilà, ils ont des grandes voix. Oui, mais après, est-ce que cette voix est chargée d'émotion ou pas? Donc, on a quelquefois des gens qui ont une belle puissance, mais ils ne mettent pas d'émotion, ils font de l'esthétique, et du coup, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, voilà, et donc, c'est un travail. Sur soi, sur qu'est-ce que j'exprime avec ma voix, qu'est-ce que je veux exprimer. Donc, il y a beaucoup la question de l'intention derrière. Qu'est-ce que je cherche à dire, qui je veux être. Donc, quand je suis formateur, est-ce que je suis capable de m'assumer en tant que moi, donc d'accepter aussi ben, voilà, les faiblesses, de dire je ne sais pas de temps en temps, quand vraiment voilà, je n'ai pas la réponse. Et donc, de cette détente. Qui va permettre aussi d'avoir une expression agréable pour les autres parce qu'on on force rien, on ne se force pas.
Et si je suis, parce que ce qui est formidable dont tu expliques, c'est cette dimension avec le spirituel au sens générique du terme, mais la découverte de soi, donc anti-développement personnel. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est un prétexte pour aller. Mais quand on revient dans un monde plus professionnel, si tu as une responsable de formation qui dit ce que tu dis, c'est génial, j'ai des formateurs, comment je m'y prends?
Pour qu'ils travaillent leur voix ou
Tu dis la voix, je trouve ça extraordinaire le travail de la voix. Toi, tu t'y prendrais comment pour qu'ils puissent travailler l'ensemble des formateurs, travailler la voix?
Alors déjà, je pense que il faut qu'ils prennent conscience des effets de leur voix. Hein, et donc il puisse y avoir des échanges avec les gens qui les écoutent. Qui leur fassent des retours aussi objectifs et bienveillants que possible sur voilà, les effets, ce que ça leur donne envie d'écouter. Ouais. Il y a des exercices qu'on peut leur faire faire de, voilà, soit de présentation vraiment d'un extrait de leur formation, soit d'une lecture de texte, etc. Et que, donc, effectivement, on leur fasse des retours sur leur voix. Après, il y a les difficultés qu'ils peuvent
Oui, mais
rencontrer.
quand tu parles des retours sur la voix, autant les gens ne savent pas trop parler, ils parlent un peu comme ça vient, autant les gens ne savent pas trop écouter. Non?
Ah, alors oui, effectivement. Disons
Non, je sais pas.
qu'il faut. Oui, non, tu as raison, c'est vrai que l'écoute est un problème quand même souvent, et d'ailleurs aussi de plus en plus. Mais si tu demandes, dans le cadre d'un exercice, alors peut-être entre formateurs, hein, moi en formation, on faisait ça, entre formateurs, ils ont tous intérêt à s'améliorer les uns les autres et à s'entraider, du coup. Et donc, on va leur demander d'écouter certaines choses précises. On leur, voilà, et puis. Donc, ils peuvent faire des retours qui vont être forcément subjectifs, mais qui vont être voilà, de l'ordre de est-ce que j'ai envie d'écouter cette voix-là? Est-ce que quand il m'a expliqué ça, j'ai vraiment compris? Est-ce que ça a retenu mon intérêt ou pas? Voilà. Après, il y a les difficultés que le formateur rencontre. peut-être. La manière dont il fatigue sa voix, les moments où il a l'impression d'être en apnée.
Donc, tu fais des exercices qui sont collectifs au départ pour qu'ils découvrent leur voix, qu'ils entendent comment les gens perçoivent leur voix. Et puis après, qu'est-ce que tu en fais? Tu leur fais un programme, tu restes en collectif ou tu te dis, il y a un certain moment, c'est plus de l'individuel?
Et tu peux avoir les deux. Tu as du travail collectif qui est toujours très intéressant parce qu'il y a l'interaction. Hein, et donc, il y a tout un tas d'exercices qu'on peut faire en collectif. Après, il y a des choses qui se travaillent vraiment bien qu'en individuel. Moi, c'est vrai que quand je travaille en individuel, je suis vraiment à l'écoute de comment la personne bouge, comment elle respire, comment, et on travaille beaucoup sur la conscience qu'elle met. Si je fais le son de cette manière-là ou si je le fais de cette manière-là, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et donc là, voilà, ça devient effectivement un travail vraiment très fin qui se fait difficilement en collectif. Donc l'idéal, c'est un peu les deux. Mais on peut quand même travailler pas mal de choses en collectif, donc il y a une prise de conscience, puis après chacun se dit, ah oui, ben là, moi, il faudrait que je travaille le lâcher prise, donc je pourrais peut-être aller faire un peu de théâtre ou peut-être que je fasse un peu de sophrologie, travailler un peu mon stress, ou, voilà, parce qu'il y a toujours tout un tas de compléments possibles. Mais il faut que la personne mette le doigt sur ce qui éventuellement pose problème, et puis qu'elle ait envie de travailler. Hein. Travailler sa respiration, comme je disais, c'est pas très difficile, mais il faut quand même décider de le faire. Voilà, ça va pas se faire tout seul, et il faut pendant un certain nombre de mois vraiment. Le faire très très régulièrement, donc il faut que les gens aient envie. Souvent, ce qui les amène, moi j'en ai en individuel, hein, des formateurs, des profs. J'ai eu une élue une fois, parce qu'elle commençait à devoir parler en public. Et en fait, ce qui les amène, c'est soit qu'ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas, ou qu'on ne les entend pas, ou qu'on ne les comprend pas, soit qu'ils portent des mauvais jugements sur leur voix, c'est pas forcément les autres qui leur ont fait des commentaires, ça arrive, mais c'est souvent eux-mêmes qui portent des mauvais jugements sur leur voix, soit qu'ils ont effectivement des difficultés, des aphonies régulièrement, des irritations de la
Ouais, ça.
gorge, que quand ils essayent de parler plus fort, ben en fait, ça marche pas bien. Il y a beaucoup de profs, alors pas mal de femmes qui essayent d'affirmer leur autorité en couvrant les brouhahas, et donc c'est surtout ce qu'il faut faire. Et donc elles se pètent, voilà, se font mal à la voix, elles se retrouvent à faune régulièrement,
Mais
et en
alors,
fait, on
comment
n'a
tu
pas pu
fais
faire
quand
autrement.
tu es dans un amphi qui est bruyant, il n'y a plus la même autorité qu'avant,
Ouais.
pour récupérer la main si tu parles pas plus fort?
Ben en fait, paradoxalement, le mieux, c'est de se taire.
Ah
C'est-à-dire que
oui.
si ils sont venus assister à un cours, ça discute, ça papote, etc. Ben, on se tait le temps qu'il faut. Et à un moment donné, en général, ils se taisent aussi, hein, parce
Bah
que
ouais,
c'est interpellant. Le
tu
silence est
donnes.
interpellant. Voilà.
Donc c'est un peu
Après,
comme
on
au
peut poser
théâtre où tu as.
un. Pardon, excuse-moi.
Ah oui.
Après, on peut poser un petit contrat en disant, ben, écoutez, moi, si vous parlez autant que moi, je ne vais pas y arriver. Donc, est-ce qu'on peut. On peut se dire qu'il y en a qu'un qui parle à la fois. Enfin, voilà, et on peut aussi dire ça. Mais il faut surtout jamais forcer sa voix et surtout jamais essayer de couvrir le bruit parce que ça marche pas, puis on se fait mal.
C'est souvent au théâtre, ce qu'on dit, c'est que le théâtre, c'est la force du théâtre, c'est les silences, parce que ça donne de l'importance à ce qu'on va dire après. Et donc, c'est non seulement une question de voix, mais c'est aussi une question de rhétorique, c'est-à-dire comment j'organise les informations que je veux transmettre.
Alors, il y a aussi, alors dans un amphi ou sur une scène de théâtre, il y a aussi cette question de la présence. Un des derniers articles que j'ai écrit pour Todd Cursus parle de ça, là, de la présence. Au théâtre, c'est une vraie question sur laquelle il y a plein de gens qui réfléchissent, chacun a sa définition, etc. Mais quand tu es formateur, c'est super important.
Bien sûr.
Comment tu arrives à être présent au point que même en silence, on ne peut pas ignorer que tu es là? Et là, il y a vraiment un travail avec le corps. Si effectivement, tu arrives à mettre de la présence, donc en fait de l'ancrage, et être posé, ta voix, elle va sortir aussi de façon posée. Et naturellement, les gens te prêtent attention et t'écoutent. Donc, il y a vraiment ce travail de, voilà, est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que je suis capable? Un des exercices que je faisais faire en formation de formateur assez régulièrement, c'est 10 secondes de silence total face à un groupe qui te regarde. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le formateur, il est sous le regard tout le temps.
Bien sûr.
De 12 perdus, 20 perdus, 50 perdus, mais des gens, voilà, tu es sous le regard. Et des fois, c'est difficile. Hein. Pour certains, c'est très intimidant. Donc, arriver à être debout, tranquille, ancré, à regarder les gens sans rien dire pendant 10 secondes. 10 secondes, c'est en principe 3 de plus que ce que les gens supportent. Enfin, que. Seconde, c'est. Ou de 7 secondes, il y a toujours quelqu'un qui rompt le silence. Donc 10 secondes, c'est 3 secondes de plus. Et pour certains, c'est vraiment un exercice de fond. Parce que si tu arrives à faire ça, bon, ben après, voilà, en général, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire, assumer d'être moi face à un groupe qui me regarde, dans le silence s'il faut. Le
Tu trouves?
brouhaha, voilà, c'est faut se taire
Ah
en
oui.
fait.
Mais c'est tout l'intérêt d'apprendre justement à gérer un groupe animalement pour après pouvoir donner de l'information ou transmettre de façon à être inspirant, comme on dit souvent. Voilà. Mais au départ, il y a toute une dimension animalière.
Oui.
Si je n'ai pas l'air de tenir mon groupe, bah, étrangement, il ne me respecte pas parce que je ne me respecte pas moi-même dans la relation.
Mais c'est toujours voilà, le regard qu'on porte sur soi. Alors, il y a une détente à trouver. Savoir quel est son style à soi, parce qu'il n'y a pas deux formateurs pareils,
Absolument.
hein. Quel est son style à soi, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir dans le fait d'animer? Comment je peux transmettre ce plaisir et faire en sorte que les gens soient détendus comme moi, que le groupe soit bien, quoi. Donc, il faut être à l'écoute de ses propres besoins, être capable de faire des pauses, y compris pour soi. Voilà, il y a vraiment une question de se connaître. Je trouve que le métier de formateur, comme métier de manager, c'est des métiers qui obligent au développement personnel. Sinon, on est mauvais, en fait. Il faut pouvoir s'adapter à l'ensemble des interlocuteurs. Et pour ça, il faut savoir qui on est. Il faut apprendre à. Voilà. Et donc, trouver son style de formateur qui va faire que les gens vont avoir envie. Ce qu'on a vu avec Apprendre à apprendre, l'association qu'a créée Denis Christol, c'est que finalement, l'envie d'apprendre, elle vient quand même beaucoup de qui nous a appris. En
Oui.
fait, les enfants apprennent beaucoup par l'imitation et l'observation. Et moi, je crois que fondamentalement, les adultes font en fait pareil.
Exactement.
Continuent d'apprendre parce qu'on a rencontré une personne qui nous a donné envie. Quelquefois, sur un même sujet, il y a des gens qui nous endorment et des gens qui nous passionnent, hein, exactement sur la même question. Et donc, c'est voilà comment la personne porte son discours, comment elle y croit. Et voilà, et sa voix va venir avec. Parce que sa conviction est là, sa voix va venir avec, en fait.
Tu trouves que dans les compétences, dans le référentiel de compétences du formateur, on devrait introduire obligatoirement le fait de connaître sa voix ou de maîtriser sa voix dans les outils?
Ah, moi, je crois. Je crois parce que, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé et avec lequel beaucoup de formateurs ont du mal. Donc, je pense qu'effectivement, il devrait y avoir une prise de conscience là-dessus et un minimum d'exercices proposés pour que les gens puissent voilà, s'entraîner, développer ce qu'il a besoin de l'être, prendre conscience. Moi, j'ai vu, alors c'est plus chez les enseignants que chez les formateurs quand même, mais j'ai vu des enseignants assis à un bureau lire un texte avec une voix totalement plate. Et donc, ben, en fait. Tout le monde dort.
Étrangement.
Et puis on retient rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'enfance. Et donc c'est voilà, mettre en scène ce qu'on a à transmettre, donner du relief, donner du mouvement. Mais pour tout ça, il faut vraiment croire à ce qu'on a à transmettre, l'incarner en fait. Quand on est par exemple formateur sur tout ce qui est comportemental, management, intelligence émotionnelle, gestion des conflits, toutes ces choses-là, en fait, ça va d'autant mieux marcher qu'on incarne ce qu'on dit, évidemment.
Exactement.
Donc,
Même sur les autres sujets. Moi, je me rappelle quelqu'un qui faisait une journée sur la sécurité incendie. On voyait bien qu'il refaisait toujours la même chose et que c'était pénible pour lui. Bon, il faisait son travail, donc il était payé, mais il n'intéressait personne, quoi.
Ah ben, quand la personne a l'air de s'ennuyer, de toute façon, c'est ça qu'elle va diffuser, hein, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, tu vois, si par exemple tu formes à la gestion des conflits et que pendant ta session, il y a quelques tensions qui se créent entre des stagiaires, ben, il faut que tu puisses démontrer que tu es capable de gérer.
Exactement.
Sinon, ben, t'es pas crédible. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'incarnation. De son contenu. Et donc la voix, elle va venir avec ça, c'est-à-dire elle va être une expression, une conséquence de la personnalité, comme je disais, de l'état émotionnel, de l'état physique. Quelqu'un qui est fatigué, ça s'entend dans sa voix. Encore une fois, il n'y a même pas besoin de voir la personne. Si on entend sa voix, on va pouvoir dire, quelqu'un qui écoute les voix, on va dire, ah tiens, cette personne-là n'est pas très en forme. Voilà, ou alors ce qu'elle exprime là, ça a l'air de l'emmerder. Ou alors il y a beaucoup d'émotions là derrière, ça a l'air de la. Voilà, on entend tout ça dans la voix.
Bien sûr,
On
exactement.
voit pas la personne. Hein.
Et donc, ça veut dire que ce qui est intéressant aussi, c'est tous les responsables de formation qui sont un peu sensibilisés par le sujet, peuvent l'utiliser soit comme une technique, justement, pour ne pas fatiguer sa voix, pour être impactant, pour être capable de ne pas se casser la voix, ce qui est des choses importantes. Et derrière, et ça peut être aussi l'outil pour créer un peu une incarnation. Et donc le fait de se dire, en tant que formateur, ben, la formation m'a appris à me découvrir dans le métier de formateur. Et c'est extraordinaire pour redonner du sens.
Mais oui,
Donc il y a les
c'est
deux. Il y a les
vraiment
deux.
un métier de découverte de soi, le métier de formateur.
Exactement. À condition de préparer les gens, parce que ce que tu disais, c'est très juste, la majeure partie des formateurs n'ont pas d'outils pour travailler leur voix, ne connaissent pas leur voix. Ils se disent, ben, je parle comme ça vient, et puis je me débrouille. Si j'ai vu par mimétisme des bons formateurs, je fais un copier-coller. Mais finalement, donc bon, c'est déjà très bien. Mais si je me débrouille un peu tout seul, ben, je me lance un peu comme je suis. Et donc, il manque de professionnalisme pour justement avoir des outils pour être capable de faire de leur voix ce qu'ils veulent porter.
Oui, ce que je disais tout à l'heure, un des classiques, c'est que la personne qui commence à être formateur ne réalise pas qu'elle ne peut pas s'exprimer comme dans une conversation. Qu'en fait, elle s'adresse à des gens qui doivent comprendre, enfin, qui font plein de choses en fait, ils doivent écouter, comprendre. Voir si effectivement ça fait sens pour eux et éventuellement poser des questions. Et donc c'est tout un travail mental qui nécessite que l'information ne vienne pas en masse de façon trop rapide, trop dense. Faut qu'on leur laisse le temps. Hein. Donc ça veut dire que pendant qu'on parle, on doit aussi observer les gens, voir par les signaux s'ils ont l'air d'être là ou de dormir les yeux ouverts.
Oui, il y a des gens qui le
Voir
font.
s'il y a des questions qui ont l'air de que voilà, qu'il y a des gens qui ont envie de poser une question mais qui ne le font pas, etc. Donc, il faut pouvoir faire ça, c'est-à-dire qu'il faut être détendu quand même. Et puis, il faut avoir un débit qui permet voilà, que ce travail mental des interlocuteurs puisse se faire. Et très souvent, il n'y a pas de conscience de mise là-dessus. Les gens parlent à la vitesse à laquelle ils ont l'habitude de parler, ils déversent des masses d'informations et en fait, ils perdent les gens en route. Moi, je dis souvent, un formateur, c'est comme un guide de randonnée. En fait, il a un but sur lequel tout le monde est d'accord, mais il ne faut pas qu'il perde des gens en chemin. Et on sait qu'en randonnée, bah, souvent, il y en a qui traînent derrière, qui papotent ou qui marchent moins vite. Il y a ceux qui veulent aller plus vite, donc accélèrent, etc. Puis des fois, il y en a, ils vont cueillir des fleurs sur les côtés et on les perd en route. Et donc, il faut pouvoir faire des étapes et vérifier à chaque étape qu'on a toujours tout son troupeau, quoi. Hein. Et donc, bah, en formation, voilà, si tu ne vérifies pas, que tu déverses ton contenu trop rapidement, etc. T'arrives au but, mais tout seul.
Exactement. Donc
T'as perdu tout le monde.
et c'est là où effectivement, c'est tout l'intérêt. Le 21e siècle a introduit l'émotion, de nouvelles dimensions dans les métiers. Et la formation rentre dans cette dimension-là avec le fait de découvrir plein de choses. Et donc, ça permet à tous les formateurs qui nous écoutent de s'interroger en disant, est-ce que ça m'intéresse d'apprendre, de me développer tout seul? Ou est-ce que, effectivement, quand on est avec des organismes de formation, des organismes de formateurs ou des responsables de formation, de prendre soin de leurs formateurs pour les monter en puissance sur ces domaines-là qui font une grosse différence sur l'impact que ça porte? Donc, c'était passionnant. Françoise Écart, Alors, si on t'aime bien, comment est-ce qu'on fait pour te suivre?
Alors, j'ai un site dédié au coaching vocal qui s'appelle présencevocale.fr. Voilà, tout simple. Voilà, et donc là, on voit toute mon actualité. Et puis, de temps en temps, j'écris des articles sur d'autres cursus. Donc, je disais, le dernier, il portait sur la présence. Donc, il parle notamment au passage de la voix. Bon. Voilà. Ouais. Donc,
Et donc, t'es plus LinkedIn ou tu n'utilises pas trop?
je suis sur LinkedIn, oui, mais je n'utilise pas énormément. J'ai un peu de mal avec LinkedIn. Moi, je suis beaucoup sur Facebook. Donc, j'ai une page Facebook qui s'appelle Présence Vocale aussi, d'ailleurs. Voilà.
D'accord, très bien. Mais sinon,
Et
ton site est
aussi
très bien.
ailleurs, pour les gens qui veulent un peu creuser le sujet, en sous-site de présence vocale, j'ai un site qui s'appelle présence vocale slash veille vocale, où en fait je rassemble, parce que ça c'est mon travers de bibliothécaire, hein, on ne se refait pas, tout ce que je peux ramasser de livres intéressants sur la voix,
Oui.
films sur la voix, émissions sur la voix, il y en a de temps en temps qui sont tout à fait intéressantes pour apprendre des choses, vidéos YouTube sur l'anatomie de la voix, événements aussi sur la voix, comme il y a des festivals. De voix. Là, par exemple, au mois de mai, il y a un festival assez connu à Châteauroux, un festival sur la voix. Donc voilà, donc j'ai fait ce site-là où je rassemble des infos
Mais
que
très
tu peux
bien.
creuser. Voilà.
Bravo. Non, mais c'est vraiment. C'est du Creative Commons. Il y en a un qui rassemble et puis qui le diffuse auprès des autres. Donc, c'est passionnant. Donc, j'ai une voix un peu enrayée à cause du pollen. Voilà. Donc, mais sinon, voilà. Donc, merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Moi, j'espère que tout le monde a autant aimé. Puis, n'hésitez pas à aller voir directement Françoise Écart ou de mettre des commentaires en message privé ou directement quand on diffuse l'émission. En tout cas, pour vous donner vos commentaires en disant, tiens, ça m'intéresse. Ou aller directement voir la veille vocale que je trouve vraiment intéressante. Comme ça, vous faites votre propre idée, puis sur son site, vous lui dites tout ce que vous avez aimé ou pas, d'ailleurs, parce que c'est aussi une façon de faire progresser en disant j'ai pas aimé quelque chose. Donc ça peut faire évoluer avec toujours de la bienveillance, bien évidemment, ce qui est la marque de l'émission. Merci Françoise, à très bientôt. Au revoir à
Merci.
tous.
À bientôt.